Chapitre 57. Suivons César en Espagne. Soyez tranquille, un ou deux chapitres nous suffiront pour toute cette guerre. Il est vrai que la campagne ne fut pas longue. Elle dura 6 semaines, je crois. César commença par passer les Alpes. Ce même Domitius Aenobarbus, qui voulut s'empoisonner à Corfinium, à qui lui, César, avait donné la vie et qu'il avait laissé libre de ses actions, s'était empressé d'aller rejoindre Pompée, comme César l'avait prévu dans sa lettre à Cicéron. Puis il avait réuni 7 brigantins, les avait chargés d'hommes à lui, ramassés sur ses terres, et s'était jeté avec eux dans Marseille. De son côté, Pompée, avant de quitter Rome, avait renvoyé à leur famille quelques jeunes Marseillais qui, sous son patronage, étaient venus achever leur éducation à Rome et les avait chargés de dire à leurs parents qu'ils les priaient de se souvenir des obligations qu'ils lui avaient et de ne point préférer les nouvelles faveurs aux anciennes. Cette double circonstance avait fait de Marseille une vie hostile à César. Marseille, en conséquence, avait fait rentrer dans ses murs quelques montagnards des environs, avait fait des magasins de blé tirés de la campagne et des forteresses voisines, avait établi des ateliers pour forger les armes, radouber les navires, rétablir les brèches et les murailles, et enfin avait fermé ses portes à César. César n'avait pas le temps de faire des sièges. Il appelle près de lui les 15 principaux habitants de la ville, les conjure de ne pas être les premiers à lui déclarer la guerre, les exhorte à suivre l'exemple de l'Italie, qui non seulement s'est soumise, mais encore est venue à lui. Il attendra leur réponse. Ils reviennent dire que Marseille a appris que l'Italie était séparée en 2 grandes factions, celle de César et celle de Pompée, et que Marseille, ville grecque, demande à rester neutre. Or, comme ce n'était pas resté neutre que de recevoir dans ses murailles Domitius et ses hommes, César dresse ses tours et ses mantelets, fait construire 12 galères à Arles, lesquelles sont construites et équipées en 30 jours. Et, après les avoir amenées devant la place, donne le commandement du siège à Tribonius et celui de la flotte à Decimus Brutus. Ne pas confondre avec Marcus Brutus, son cousin. Tous deux assassineront César. Mais ce n'est pas une raison pour confondre un assassin avec l'autre. Puis il envoie Fabius, avec 3 légions qui hivernaient à Narbonne, afin de gagner le passage des Pyrénées que garde Afranius. Ordonne aux autres légions de le rejoindre lui-même et se jette sur les traces de son avant-garde. Les 3 lieutenants de Pompée tenaient l'Espagne, ainsi divisée entre eux. Afranius gouvernait l'Espagne citérieure, Petreius, l'Estramadure et le Portugal, Varron le reste, depuis la forêt de Calphione jusqu'à la Guadagne. À l'approche de César, Petreius et Afranius se réunirent. Ils campèrent près de l'Érida. Ils avaient 5 légions, 80 cohortes d'infanterie, 5 000 chevaux. Fabius, lieutenant de César, avait de son côté 6 légions et 3 000 chevaux. De plus, César tirait des Gaules, tout en marchant à l'ennemi, 3 000 cavaliers et une foule de Gascons et de Basques, très bons soldats, surtout pour la guerre qu'il allait faire. Le bruit courait que Pompée venait par l'Afrique et qu'il serait incessamment en Espagne avec une armée. C'était 10 fois probable, le contraire paraissait même impossible. Soit qu'il manquât de numéraires, comme on dit de nos jours, soit qu'il voulût lier les chefs de son armée à sa propre fortune, César réunit ses officiers, leur emprunta tout l'argent qui ne leur était pas absolument nécessaire pour leurs dépenses personnelles et, avec cet argent, paya ses soldats. César entrait en Espagne par Perpignan, Montlouis, puis Cerdà. Nous nous servons des noms modernes afin d'être plus intelligibles et que l'on puisse nous suivre, si l'envie en prenait à nos lecteurs, sur la première carte venue. Il trouva Fabius établi sur la Sègre, Sicoris. La Sègre prend sa source aux montagnes qui enclosent le Val d'Andorre, coule au sud-ouest, va se mêler à Balaguer, au Rio Noguera, qui lui fait perdre son nom, continue sa route par l'Érida et va se jeter dans l'Èbre à Menquinenza. Fabius avait établi 2 ponts sur la Sègre à 1 lieue l'un de l'autre. Ces ponts servaient de passage aux fourrageurs, le pays par lequel on venait de passer étant complètement ruiné. Un des ponts se brise sous un convoi. C'était 2 jours avant l'arrivée de César. Afranius et Petreius, qui tenaient le cours de la rivière, reconnaissent l'accident en voyant la rivière charrier des débris. Ils attaquent aussitôt les soldats de César. Plancus, qui commandait le convoi et qui, par la rupture du pont, se trouvait séparé du camp de Fabius, se retire sur une éminence et fait front des deux côtés. Pendant le combat, on voit briller de loin les étendards de deux légions. C'est Fabius qui vient au secours de Plancus. Il a passé le second pont. Afranius se retire. Deux jours après, comme nous l'avons dit, César arrive avec une escorte de 900 chevaux. Le pont avait été refait pendant la nuit de son arrivée. Il s'achève sous ses yeux. Le voilà arrivé, l'ennemi reconnaîtra sa présence à ses coups. À 2000 ans de distance, c'est la tactique de Napoléon. On le croit à 100 lieues, il arrive dans la nuit, il attaque le lendemain. Il reconnaît les lieux, laisse 6 cohortes pour la garde du pont et du camp, et marche sur 3 lignes à Afranius. Afranius refuse le combat et masse ses soldats sur une colline. César campera au pied de cette colline. Il passe la journée sous les armes, et derrière la ligne de bataille qu'il présente, le reste de l'armée creuse un fossé que ne soupçonne même pas Afranius. La nuit venue, il se retire au-delà de ce retranchement. Le lendemain, il indique à 3 légions les 3 fossés qui restent à creuser. Les légions se mettent à l'œuvre. Le soir, les 3 fossés sont creusés. Afranius a voulu les inquiéter dans leur travail, mais voyant César à moitié fortifié, il n'a pas osé quitter le bas de la montagne. Quand le jour se lève, les fossés sont garnis de palissades. César a un camp retranché où il fait venir les bagages et les troupes restées dans l'autre. Le lendemain, engagement entre César et Afranius. À la fin de la journée, chacun se vante de sa victoire, ce qui arrive toujours quand personne n'a vaincu. 2 jours après, arrive un autre accident plus grave. Les neiges fondent dans les Pyrénées. La Sègre déborde et entraîne les 2 ponts de César. Autant en arrivera à Napoléon dans l'île de Lobao, quelques jours avant Wagram. Voilà César sans vivre et sans moyen de s'en procurer. Quelque peu de blé qu'on achève de consommer, pas de bétail. Tous les propriétaires de bestiaux ont conduit leurs troupeaux hors de la contrée. Le blé se vend 40 deniers le boisseau. Joignez à cela les troupes légères espagnoles, accoutumées à passer le fleuve sur des outres et qui, jour et nuit, harcèlent l'armée de César. Quant à rebâtir les ponts, il n'y faut pas songer. Les eaux sont trop grosses, la rivière trop rapide. César est pris comme dans un piège. Pas un de ses soldats n'en échappera. On n'aura pas même besoin de les tuer, ils mourront de faim. La nouvelle en court jusqu'à Rome. De Rome, elle passe en Illyrie et en Grèce. Il y a que à la maison d'Afranius, à la Villa Sacra. Afranius est le sauveur du monde. On envoie des messages à Pompée et beaucoup de sénateurs qui ont hésité jusque-là se décident enfin et prennent parti pour lui. Seulement, on a compté sans le génie et l'activité de César. César ordonne à ses soldats de faire de petits bateaux à l'imitation de ceux qu'ils ont vus en Angleterre. Les soldats de César sont bons à tout. Les voilà charpentiers. Les fonds et les pièces principales de ces bateaux étaient de bois très léger, le reste d'osier couvert de cuir. On les charge sur des chariots accouplés. Puis, une belle nuit, on les traîne à 5 ou 6 lieues du camp. 200 ou 300 soldats passent, s'emparent d'une éminence et s'y fortifient. Puis, pendant qu'ils défendent l'approche de la rivière, on fait passer une légion. La légion passée, on dresse un pont qui est établi en 2 jours, attendu qu'on y travaille des 2 côtés et que l'ennemi n'est plus là pour cribler de traits les travailleurs. Après la légion, la cavalerie passe à la Sègre et s'en va au galop surprendre l'ennemi au fourrage. Puis arrive un convoi de vivres et de bagages avec une escorte de 6000 personnes de toutes sortes. Des archers de la Rouergue, de la cavalerie gauloise, des enfants de sénateurs et de chevaliers. L'abondance rentre dans le camp de 2 côtés à la fois. Qui donc a dit que César était perdu? On s'est trop pressé là-bas à Rome, et plus d'un qui avait déjà fait un pas vers Pompée revient et fait 2 pas vers César.